outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Cano présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La fin de l'homme. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. l'histoire de général à l'Odéon. L'on représente la première de Philippe II, pièce de M. Charles de Contencieux. Tout Paris est là, beaucoup de jeunes inconnus. Dans les coulisses, un homme attend avec impatience le lever de rideau. Il est grand, maigre, le visage osseux, les cheveux rares, il porte un costume gris. Enfin, le rideau se lève. La pièce a à peine commencé. Et l'on entend la foule, les sifflets, les cris. Les comédiens ne peuvent s'exprimer. Ils attendent que ça passe. Au bout d'un moment, un comédien s'avance au bord de la scène et crie « Je vous en prie, laissez-nous jouer !» Un chanteur lui crie « Ce n'est pas à vous comme on en veut, mais à l'auteur !» Un autre crie « Ne jouez plus du Contencieux. C'est vieux, ringard !» La foule se met à crier. À part le théâtre Contencieux, les comédiens attendent les bras ballants. La foule crie de plus en plus fort. L'homme qui attend dans les coulisses se met à crier. Rideau, rideau. Le rideau se baisse. Le rideau descend dans les applaudissements. Les acteurs sortent de scène. Un petit homme crapu, les cheveux gris, habillé de costume marine, s'approche de l'auteur et lui dit « C'est qu'une cabale, mon ami, ce n'est qu'une cabale !» Charles de Contencieux lui dit « Je sais que c'est une cabale, c'est moi qui ai dit de baisser le rideau. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que j'ai toujours été auteur d'avant-garde. Et jusqu'à présent, ce sont les jeunes qui m'applaudissaient. Maintenant, on me traite de ringard. La jeunesse me traite de ringard. C'est la première fois que je ressens mon âge. Oui, la première fois que je ressens mon âge. Vous en faites pas, mon ami. Votre pièce est comme les autres, pleine de fougue, d'ardeur et de jeunesse. Ces jeunes de ce soir ne sont pas toute la jeunesse. Je le sais, mais il représente une bonne partie. Non, si mon théâtre ne passe plus autant, ne plus écrire, je ne me suis jamais mis à la mode. C'est moi qui fais la mode, ou qui allait plutôt au-delà de la mode, de celle-ci. Arrêtez les représentations de cette pièce. Dites désuète le plus tôt possible. Je suis vraiment navré pour vous, mon ami. Bonne nuit. Vous ne restez pas pour avec nous. La presse aurait des questions à vous poser. Non, non. Je suis usé. Cela va. Cela suffit pour ce soir. Et puis, un échec est un échec.
Et il s'éloigne en se tenant le plus droit qu'il peut.
Une fois dehors, il s'accroche à un mur et souffle. Ses jambes tremblent un peu, puis reprend sa marche pour rentrer chez lui. Les rues de Paris sont encore pleines de monde. Il fait un peu frais. Charles marche à petits pas. Il se sent las et fatigué.
Voilà l'âge t'a rattrapé, mon vieux. Tu n'es qu'un vieillard maintenant, démodé et bientôt oublié. J'étais un homme plein de fougue. J'ai eu beaucoup de succès et de considération comme un homme d'une grande modernité. Mes thèmes étaient en avance sur leur temps. Ils plaisaient à la jeunesse. Le metteur de jeu s'imagine que ce qu'il fait survivra. Eh bien non, à part quelques exceptions, après notre mort, il ne reste rien de vous.
Voilà arrivé vers chez lui. Il habite une petite maison d'un étage, un style démodé et décrépit. Il ouvre la porte de son appartement. Claire, c'est un petit couloir où se trouvent au fond des escaliers de bois qui mènent à l'étage. La maison a 5 pièces, mais lui n'en occupe qu'une. Les autres, il les a abandonnées aux toiles d'araignée. La pièce qu'il occupe se trouve au rez-de-chaussée. C'est une vaste pièce au parquet défoncé. Il y a 2 fenêtres, une cheminée de pierre. Les murs sont tapissés d'une tapisserie si vieille que l'on ne voit plus que les taches de suie dessus. Au milieu de la pièce, un vieux poêle à charbon à côté son seau, une table qui sert de bureau, remplie de papiers épars et de piles de papiers attachées avec des ficelles. Un vieux fauteuil en cuir à roulettes défoncées. Derrière le bureau, des rayonnages pleins de livres. Il y en a même à terre des piles de livres. À l'autre bout de la pièce, un paravent décoré japonais où derrière se trouve un lit de camp et un lavabo. À côté du lavabo, un meuble en bois où dessus se trouve un réchaud à gaz avec une casserole en alu dessus. Au plafond de la pièce, une simple ampoule électrique. C'est ici qu'il vit, et depuis des années. Il pourrait vivre autrement, il a ce qu'il faut, à hériter de tous les meubles et biens de sa famille qui était noble. Mais il a décidé de consacrer toutes ses forces et son temps à son œuvre. Dans les autres pièces se trouvent des paquets, cartons, caisses en bois qui n'ont jamais été ouvertes, et ceci depuis plus de 40 ans. Il ne veut pas perdre son temps à ranger, trier. Cet homme s'est donné un but dans la vie. C'est faire son œuvre. Il se déshabille derrière le paravent. Ses gestes sont lourds. Il va se coucher en caleçon, sans pyjama. Les draps sont froids, la pièce aussi. Il se recroqueville et attend le sommeil.
Dormir pour oublier tout ça.
Une heure plus tard, il s'endort.
Il fait souvent le même rêve. Son enfance, l'école, le collège.
Aujourd'hui, Saint-Siméon,
Saint-Siméon
styliste, avait 13 ans et gardait les moutons de son père quand il entendit ce verset de
Défroniche.
Malheur à vous qui riez à présent, car le jour viendra où vous pleurerez.
Celui de toute sa vie.
Devint ermite et vécut 30 années sur une colonne.
Chaque fois qu'il le voit dans ses rêves, dans la gorge qui se serre, avec de pleurer,
absorbé dans une prière,
quelque chose lui dit que ce n'est qu'un rêve.
Alors, il se réveille, les larmes aux yeux. Il aimerait se réveiller avec ses 14-15 ans. Mais non, le poids de votre vie vous démontre le contraire. Et puis, ce que l'on voit n'est pas la chambre claire de son enfance. Ce n'est pas les bruits familiers des rues du début du siècle. Maman ne dira pas à la bonne de frapper pour vous dire de vous lever. Non, la pièce est froide, les murs sont noirs. Personne pour aller dire bonjour. Et en guise de petit déjeuner, du Nescafé avec dans de l'eau chaude, avec un bout de pain rassis. Charles regarde sa montre, qu'il garde toujours à son poignet. Elle est lumineuse, ce qui fait qu'il peut voir l'heure dans le noir.
7h30. Le sommeil aurait pu me garder plus longtemps. J'ai plus rien à faire maintenant, puisque mon œuvre est morte. Donc fini.
Il sort de son lit péniblement. Il sent le froid et les raideurs. Il va vite au lavabo se raser. Savon à barbe et rasoir à main. Il se rase à l'eau froide. Faire chauffer de l'eau, cela n'en vaut pas la peine. Une fois rasé, il se regarde bien dans la glace. Cela fait des années qu'il ne sait pas regarder. Il est surpris et à honte. C'est un vieillard qu'il voit, un vieillard laid. Il se serait jamais cru aussi vieux et aussi moche. Cela lui donne un choc.
On se regarde pas. Le cerveau se voit toujours plus jeune que le corps. C'est vrai que je suis un vieux con. Les jeunes ont raison.
Il se souvient de ce qu'il était lorsqu'il était enfant.
Florian a raison.
Triste, la tête basse, il va s'habiller. Puis préparer son petit déjeuner. À 9h, on sonne à la porte. Il va ouvrir. C'est une petite femme, maigre, cheveux gris, un manteau, robe, sac noir. On dirait une femme sortie de film des années 30. C'est sa secrétaire depuis 35 ans.
Bonjour, Amélie.
Bonjour, monsieur. Il la fait entrer et ferme la porte.
Alors, monsieur, cette pièce a eu du succès.
Non, Amélie, je me suis fait huer, traiter de vieux con.
Oh, monsieur.
Ils ont raison. Pourquoi vous qui me dites, mon ami, m'avez-vous pas dit que j'étais un vieux con?
Oh, mais monsieur, vous êtes un homme d'exception. Vous n'êtes pas ce que ces imbéciles ont dit.
Je me suis regardé dans la glace ce matin, vous savez.
Elle hausse ses épaules.
Vous êtes bien conservé pour votre âge.
Oui, pour mon âge. J'ai bien réfléchi. Mon œuvre est dépassée. Et ce que j'écris aussi. Je n'écrirai plus rien. C'est fini. Place à la jeunesse.
Mais monsieur, vous trouvez qu'immortel.
J'étais hué par la jeunesse.
Ce n'est pas toute la jeunesse, ce ne sont que quelques contestataires.
Peut-être bien, mais la vie change, je ne les comprends plus. Comment puis-je écrire si je ne comprends pas?
La vie change, mais dans le mauvais sens, monsieur. Montrez l'or qu'ils font fausse route et donnez l'or le goût du vrai, des vraies valeurs.
comment puis-je m'en rendre compte de ce qui songe ?
Regardez autour de vous, écoutez, lisez, et vous verrez comme le monde est devenu vulgaire.
Peut-être, mais je suis trop vieux pour y faire quelque chose.
Sûrement pas, monsieur. Vous n'êtes pas trop vieux pour voir.
Bien, ce matin, je vais revoir mon œuvre, voir ce qui a vieilli, et vous taperez mon courrier.
Bien, monsieur.
Elle se dirige dans sa petite pièce qui est son bureau. Lui va dans sa chambre. Il met sur son bureau tous les livres qu'il a écrits, les pièces de théâtre, et examine tout. Après une journée de lecture de ses œuvres,
ils ont raison, cela ne vaut rien. C'est vieux, démodé, ça sent les années 30, même 20. Je me croyais être en avance et je suis en retard. C'est de la merde.
Il remet en place ses écrits sur des rayonnages. Sur des rayonnages. Décide de ne rien faire, passe ses journées dans son bureau à marcher de long en large, puis prend un livre sur ses rayonnages, un livre qui a marqué sa vie, Sénèque, Gauverdi, Tacite, Platon, Don Quichotte, Satyricon. Il les relit avec plaisir, comme s'il retrouvait des vieux et bons amis, passe des heures à la lecture sans s'occuper du temps et du reste. Il ne sent même plus froid. Il n'y a que le jour qui s'en va de la pièce qui lui fait arrêter sa lecture. Il est heureux de lire, car ça lui fait oublier le temps présent, sa vieillesse et le remène à sa jeunesse. Un après-midi, en lisant Gauverdi, il a l'impression de revenir en arrière. Tout à coup, la pièce devient claire. Le parquet se transforme en carrelage brillant, à carreaux noirs et blancs. Son pantalon usé est remplacé par un short anglais qui laisse voir ses jambes fines et lisses. On entend le chant des oiseaux. Une grande baie vitrée en face de lui qui donne sur un parc. À côté de lui, il sent la présence de sa mère allongée sur un divan. En robe blanche 1900, cheveux en chignon blond, une couverture écossaise à ses pieds. Elle est belle et jeune.
Ne lis pas trop, mon chéri, tu vas te fatiguer.
Il se retourne, sa mère lui sourit. Il est heureux.
ce n'était qu'un rêve. Ce vieil homme sent les puants, la réalité. C'est l'enfance, la jeunesse, et la jeunesse est éternelle, la vieillesse meurt.
Viens me raconter le collège.
Le collège, oh le collège. On vit le collège, on ne parle pas, ou si peu.
Et ton petit Camille, que devient-il? Que faites-vous ensemble? Je veux tout savoir.
Non, mère, c'est impossible avec ces questions. Allez, vite, vite, au collège.
Se revoit dans la rue, marchant sur les feuilles mortes, avec son cartable sur le bras, heureux de retrouver le collège, la vraie vie.
L'entrée du collège, la cour, l'on crie, l'on rit, les amitiés se font, se défont, la pièce, les classes, les professeurs prêtes doux et inflexibles, et des visages, tous ces visages, des jambes qui se croisent, se recroisent, et lui, l'unique, avec son sourire satinien, ses genoux écorchés, son pull marine usé, son odeur. Son odeur, la douceur de sa peau, des caresses échangées, baisers, confidences, comme crayons sucés et autres échanges. Le panneau est la seule fois qu'un vestiaire ou son trombasque, dans le noir, les gestes, échanger le plaisir goûté, la ceinture remise en place. Le collège, c'est le paradis, un paradis perdu aux adultes. Ou plutôt, interdit aux adultes. Puis, des cris, des pleurs, des parts. Une séparation pour toujours, un renvoi, le drame de la vie. Charles pleure, 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 il n'en peut plus. Lorsqu'il ouvre les yeux, Charles voit sa mère sur son lit de mort. Assez de pleurs, assez de pleurs, assez de pleurs. Charles s'enferme dans sa chambre et écrit, écrit. Il veut faire revivre ce qu'il a perdu. Et pour éviter de perdre une seconde fois, il doit écrire, écrire. Jusqu'à sa mort. En écrivant, il revoit le collège, l'autre, ses baisers, ses caresses. sait qui ne peut revivre cette histoire qu'en l'écrivant. La vie, le monde a fait son travail. Il ne reste plus rien de ce qu'il aime. Plus tard, pour vivre comme il veut vivre de son écriture, il est obligé d'écrire d'autres histoires. Alors pour cela, il se lance dans le monde. Il voyage aussi, voit, écoute et critique. Ses livres sont sanglants. Ils vont plus loin que son époque. Il est admiré par la jeunesse, car elle trouve qu'il a du courage de dire ce qu'elle pense tout bas. Et d'ailleurs, il défend toujours la jeunesse. Mais il voit, courant les rues, les jardins publics de France et d'ailleurs, pour retrouver un regard, un geste de son amour perdu. Que l'on touche au fond d'une allée lugubre vers la porte de la cave. Ça sent le pipi de chat et les ordures. Le jeune enfant se laisse faire. Il sent la cigarette, le slip n'est pas trop propre. Et il vous fait arrêter l'amusement assez rapidement en vous demandant avec impatience et même en fouillant vos poches de l'argent. Vous ressortez de l'allée, prêt. Vous retrouvez le bruit de la ville. Vous êtes là, triste, dégoûté. Vous demandez à quoi cela sert. C'est ridicule et bête. On a l'air stupide. On jure de ne plus jamais recommencer. De ne plus jamais recommencer. Mais, dès le lendemain, un sourire, un corps, et vous le suivez durant des heures comme un imbécile, en sachant que cela ne servira à rien, n'apportera que du dégoût. Ça ne rapportera certainement pas le plaisir passé avec l'être aimé. Tourner autour de lui, des visages, des applaudissements, des livres que l'on s'arrache. Que l'on s'arrache. Puis, le visage, toujours le même, qui hante ses nuits. Il revoit la cour, ses camarades qui courent, rient. Et lorsqu'il tient la main de son ami, en se disant que c'est le paradis sur terre. Ses yeux voient de plus en plus nettement les pages du livre qu'on verdit, le noir qui l'entoure. Il est retourné dans la vieillesse. Au bout de quelques jours, ses yeux se fatiguent en lisant. Alors il s'arrête de lire et décide de sortir. Les journées sont devenues douces, puisqu'il n'a plus rien à faire. Il marche au hasard dans les rues et observe et voit le comportement des gens, les affiches, le bruit de la ville. Il se rend compte vraiment que les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Malheureusement, ça s'est dégradé. Les gens sont devenus vulgaires, la ville criarde. On ne retrouve plus le goût français, le bon goût français. Il décide d'aller voir les endroits qui ont marqué sa vie. Malheureusement, tout a changé. Les rues se sont élargies, les arbres et jardins disparus, les maisons démolies remplacées par de grands immeubles. Le charme discret de ces rues calmes, avec ces trottoirs où étaient plantés des platanes, où l'on marchait sur les feuilles mortes, ces petites maisons avec leurs portails et leurs cours, tout cela est mort. Le collège a disparu et à sa place se trouve un garage et des immeubles modernes. On ne reconnaît plus rien. La rue a complètement changé. Ces endroits où j'ai vécu ont disparu. Il ne reste rien. C'est comme si je n'avais pas vécu. Je viens d'un monde disparu. Je vis dans un monde qui n'est pas le mien. Ça s'est passé sans que je m'en rende compte. C'est terrible et sournois. Même les gens ont changé. Que reste-t-il comme personne que j'ai aimée? Elles aussi ont été remplacées par ces espèces d'êtres sans âme, ni foi, ni devoir, qui ne connaissent comme culture que le bruit de criards d'outre-Atlantique. Ce sont des martiens qui ont remplacé les humains. Il s'en retourne écœuré. Avant de rentrer, il va prendre un café dans un bar. Musique étourdissante, jeunesse qui joue et crie devant une machine à sous. Habillé en jean, fille et garçon, s'assoit et les observe. La fille ressemble au garçon, le même geste, brusque, et le même vocabulaire. Merde! Tu fais chier, espèce de con! Salope! Un garçon s'avance vers lui, ne lui parle pas. Un café, s'il vous plaît! Le garçon se sauve sans rien dire. Il revient avec le café qu'il pose et dit: 5 francs! Charles lui donne et le garçon s'en va. Même pas merci, rien. Sur une table à côté de lui, traîne un journal. Il le prend et lit les titres. C'est effrayant! C'est du racolage! Remet le journal en place et sort du bar. Arrivé chez lui, va retrouver Amélie à son bureau. Il lui dit
« Quel monde effrayant! Ce ne sont plus des humains, ce sont des martiens. Tout a changé, les hommes, la ville, il ne reste plus rien. J'en suis aperçu seulement maintenant. Ce monde n'est pas loin. Je ne peux pas vivre au milieu de tout ça. »
Vous pouvez écrire, monsieur, et rendre compte de la dégradation du monde.
Qui me comprendrait?
On croit toujours que l'on est seul, mais il y a des milliers d'autres personnes de tout âge qui pensent comme vous.
Vous souhaitez que vous ayez raison.
Il y a justement monsieur la maison Gallimard qui a appelé.
elle vous fait dire que vous leur devez encore un livre.
Oui.
Eh bien, écrivez ce que vous voyez et ce que vous en pensez.
Peut-être.
Il réfléchit de ce que vient de lui dire sa secrétaire. Et parce qu'il s'ennuie que l'écriture, malgré tout, lui manque, il se met à réécrire.
Le titre sera « La fin des hommes ». Il écrit pendant plusieurs jours sans interruption. Et puis un matin, ses yeux lui font mal et il voit trouble. Se sent fatigué, s'assoit à son bureau, essaie d'écrire, mais n'y arrive pas.
« Je suis fatigué. Et puis, à quoi bon? Qui me comprendra ?»
Regarde sa pile de livres.
Que va devenir tout ça après ma mort? Qui va s'occuper de faire connaître mes œuvres, les réécrire? Je meurs seul, sans descendant, héritier. Mon œuvre va disparaître avec moi. Tout le travail d'une vie anéantie par le temps, la mort. J'aurais tant aimé que mon œuvre soit immortelle. Comme celle de Tacite, Plutarque, Platon, Sénèque. Continue plus que moi pour qu'il soit devenu immortel. Mais peut-être que maintenant, leur œuvre, à eux aussi, vont disparaître et être oubliées, ignorées par ces Martiens. Ces Martiens qui ont pris la place des hommes. Ils seront à jamais morts. Cela me fait du mal de savoir que ces œuvres seront oubliées, car ces grands hommes ont forgé, marqué l'homme que j'ai été et suis encore. C'est mon âme que l'on va oublier et ce sera fini. On va tout détruire ou déhumilier et détruire. Il ne me reste plus qu'à préparer ma mort.
Le lendemain après-midi, on sonne à sa porte. La secrétaire va ouvrir. C'est un jeune homme dans les 25 ans, grand, mince, ses cheveux châtains, avec des lunettes, le visage est agréable, porte un pardessus gris.
Monsieur, vous désirez ?
Bonjour madame, je m'appelle Hubert Ladriguet et j'aimerais, si c'est possible, rencontrer monsieur Charles de Cantancier. Je suis un admirateur de ses œuvres et je prépare une thèse sur ses écrits.
Monsieur ne reçoit pas d'habitude.
Mais, en un éclair, elle réfléchit et se dit que ça pourrait distraire son maître et lui redonner courage. Le jeune homme semble bien poli et aime ses œuvres.
Bien, je vais voir s'il peut vous recevoir.
Elle le laisse entrer et va dans la pièce de Charles.
Monsieur, il y a un jeune homme qui est très bien et poli, tout, qui fait une thèse sur vous et désirait vous rencontrer.
Non, je n'ai rien à dire.
Oh, monsieur, rencontrez-le tout de même. Il est si charmant et ne ressemble pas aux autres. Et puis, il aime ce que vous écrivez.
Bien, faites-le entrer.
Elle fait rentrer le jeune homme. Charles est surpris, il n'est pas comme les autres.
Hubert est ému et ne voit que l'écrivain par la pièce. Charles s'approche de lui.
Vous désirez me voir, monsieur ?
Oui, monsieur, je suis Hubert Ladriguet et j'aime ce que vous écrivez. Je fais justement une thèse sur vos écrits. J'aimerais... Acceptez-vous que je vous pose quelques questions ?
Asseyons-nous.
Ils vont s'asseoir au bureau.
Alors, jeune homme, vous appréciez mes œuvres ? Vous êtes bien le seul.
Ne croyez pas cela, monsieur. Il y a des tas de jeunes gens comme moi.
Et qu'appréciez-vous dans mon œuvre ?
Ben, vous voyez bien, vous avez un sens du réel et un esprit du devoir.
Mon œuvre est un peu démodée, non ?
Ne croyez pas cela. Elle se démode pas. Vous allez au-delà des modes. Cela fait plaisir à Charles d'entendre un jeune homme parler ainsi.
Je vous remercie, jeune homme. J'étais un peu démoralisé tous ces temps en voyant le monde qui nous entoure. Ce n'est pas très gai. J'avais l'impression de vivre dans une autre planète. Que désirez-vous voir de moi ?
Voilà, je fais une thèse sur vos écrits et j'aimerais avoir le plus d'éléments possibles pour pouvoir la faire.
Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Ce sera très simple. Vous viendrez ici la faire, ce sera beaucoup mieux, et puis vous me demanderez ce que vous voudrez. Comme ça, vous ferez votre thèse tranquillement chez moi.
Je vous remercie, monsieur.
Bien. Nous commencerons demain à 15h. 15h, excusez-moi.
Bon, je viendrai demain. Charles est heureux et surpris. Un jeune homme s'intéresse à ses écrits et va l'aider. Dès le lendemain, le jeune homme vient avec ses cahiers et avec Charles, il commence à travailler. Charles lui présente ses manuscrits, lui explique tel ou tel écrit. Ils s'entendent bien. À 17h, ils font une pause café et ils repartent jusqu'à 19h. Charles prépare dans la matinée les papiers pour l'après-midi. Cela lui fait du bien et il a même repris son livre. Un jour, Charles lui demande
« Vous vivez seul ?»«
Oui. » »«
Pas de famille ?»«
Non, mes parents sont morts d'un accident d'avion lorsque j'avais 5 ans. »«
Et personne d'autre ?»« Non. »
Charles l'apprécie de plus en plus et l'anoblit. Il se dit que ce sera un bon fils. Il voit qu'il s'est classé et a analysé ses livres. Des jours passent et un matin, Charles a des difficultés à voir. Il fait venir son médecin qui lui dit
« Il faudra aller à l'hôpital pour des examens, mais je crains que vous soyez en train de perdre la vue.
Avez-vous des vertiges ?
Oui, un peu.
Évitez de sortir. Surtout ne lisez pas et plus d'écriture non plus. Charles ne parle à personne de ce qui lui arrive. Il va le lendemain matin à l'hôpital et se fait examiner, même diagnostic.
Ne plus voir la vie. Les visages, la jeunesse, ne plus écrire, ne plus lire. Je suis déjà dans le tombeau. Il ne reste plus qu'à refermer la dalle.
Il décide de ne rien dire. Reste gai avec Hubert, qui l'aime de plus en plus. Essaye de l'aider de son mieux, même au risque de fatiguer ses yeux et de perdre plus vite la vue. Après-midi,
Il lui dit
« Si un jour mes écrits sont réédités, ils devront l'être sans censure. Il faudra y faire un test de présentation, expliquer pourquoi je dis ceci ou cela, pour que les jeunes qui sont plus ignorants à notre époque puissent comprendre. N'éditez surtout pas ni lettres intimes, ni papier. Les brûler. Voilà. Quant à mon roman que je n'ai pas fini, celui que je suis en train de faire, ne cherchez pas à le finir.
Pourquoi me dites-vous tout ça?
Parce que je vous aime bien, que j'ai confiance en vous. Si vous permettez, j'aimerais vous embrasser et bien vous regarder.
Je veux bien. Charles, les larmes aux yeux, embrasse sur la joue Hubert et le regarde bien.
Maintenant, partez. Revenez demain.
Charles, dans la nuit, se lève, fait son lit. Se rase et s'habille. Va à la table de son bureau, y met une enveloppe bien en évidence et ouvre le tiroir. On a sorti un revolver. Se met au milieu de la pièce. Et le revolver sur sa tempe.
C'est moi qui ai raison, pas les autres qui sont ignorants. Et sont sans devoir.
Et il appuie sur la gâchette. Le lendemain matin, le secrétaire a découvert le corps et a appelé la police. La lettre contient son testament et il nomme légataire universel M. Hubert Ladriguet, qui sait s'occuper de l'œuvre et des biens de Charles Contentieux avec amour et devoir. Les œuvres ont été rééditées, des essais ont été faits sur l'écrivain et il fait souvent des conférences sur ses œuvres. Il fait aussi attention aux adaptations radiophoniques, télévisuelles ou films de ses livres. Radio Canus a présenté dans la série Les Grands Radiophoniques un scénario original de Julien Jean-Pierre, La fin de l'homme. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.